Chapitre 19. Les débats. Il est très peu de localités en France où la justice emprunte aux choses ce prestige qui devrait toujours l'accompagner. Après la religion et la royauté, n'est-elle pas la plus grande machine des sociétés ? Partout, et même à Paris, la mesquinerie du local, la mauvaise disposition des lieux et le manque de décor chez la nation la plus vaniteuse et la plus théâtrale en fait de monuments qui soit aujourd'hui, diminue l'action de cet énorme pouvoir. L'arrangement est le même dans presque toutes les villes. Au fond de quelques longues salles carrées, on voit un bureau couvert en serge verte, élevé sur une estrade, derrière lequel s'asseyent les juges dans des fauteuils vulgaires. À gauche, le siège de l'accusateur public, et de son côté, le long de la muraille, une longue tribune garnie de chaises pour les jurés. En face des jurés, s'étend une autre tribune où se trouve un banc pour les accusés et pour les gendarmes qui les gardent. Le greffier se place au bas de l'estrade, auprès de la table où se déposent les pièces à conviction. Avant l'institution de la justice impériale, le commissaire du gouvernement et le directeur du jury avaient chacun un siège et une table, l'un à droite, l'autre à gauche, du bureau de la cour. Deux huissiers voltigent dans l'espace qu'on laisse devant la cour pour la comparution des témoins. Les défenseurs se tiennent au bas de la tribune des accusés. Une balustrade en bois réunit les deux tribunes vers l'autre bout de la salle et forme une enceinte où se mettent des bancs pour les témoins entendus et pour les curieux privilégiés. Puis, en face du tribunal, au-dessus de la porte d'entrée, il existe toujours une méchante tribune réservée aux autorités et aux femmes choisies du département par le président à qui appartient la police de l'audience. Le public non privilégié se tient debout dans l'espace qui reste entre la porte de la salle et la balustrade. Cette physionomie normale des tribunaux français et des cours d'assises actuelles était celle de la cour criminelle de Troyes. En avril 1806, ni les quatre juges et le président qui composaient la cour, ni l'accusateur public, ni le directeur du jury, ni le commissaire du gouvernement, ni les huissiers, ni les défenseurs, personne, excepté les gendarmes, n'avait de costume ni de marque distinctive qui relevât la nudité des choses et l'aspect assez maigre des figures. Le crucifix manquait et ne donnait son exemple ni à la justice ni aux accusés. Tout était triste et vulgaire. L'appareil, si nécessaire à l'intérêt social, est peut-être une consolation pour le criminel. L'empressement du public fut ce qu'il a été, ce qu'il sera dans toutes les occasions de ce genre, tant que les mœurs ne seront pas réformées, tant que la France n'aura pas reconnu que l'admission du public à l'audience n'emporte pas la publicité, que la publicité donnée au débat constitue une peine tellement exorbitante que si le législateur avait pu la soupçonner, il ne l'aurait pas infligée. Les mœurs sont souvent plus cruelles que les lois. Les mœurs, c'est les hommes. Mais la loi, c'est la raison d'un pays. Les mœurs, qui n'ont souvent pas de raison, l'emportent sur la loi. Il se fit des attroupements autour du palais. Comme dans tous les procès célèbres, le président fut obligé de faire garder les portes par des piquets de soldats. L'auditoire, qui restait debout derrière la balustrade, était si pressé qu'on y étouffait. Monsieur de Granville, qui défendait Michu, Bordin, le défenseur de messieurs de Simeuse, et un avocat de Troyes qui plaidait pour messieurs d'Auxerre et Gothard, les moins compromis des six accusés, furent à leur poste avant l'ouverture de la séance et leurs figures respiraient la confiance. De même que le médecin ne laisse rien voir de ses appréhensions à son malade, de même l'avocat montre toujours une physionomie pleine d'espoir à son client. C'est un de ces cas rares où le mensonge devient vertu. Quand les accusés entrèrent, il s'éleva de favorables murmures à l'aspect des quatre jeunes gens qui, après 20 jours de détention passée dans l'inquiétude, avaient un peu pâli. La parfaite ressemblance des jumeaux excita l'intérêt le plus puissant. Peut-être chacun pensait-il que la nature devait exercer une protection spéciale sur l'une de ses plus curieuses raretés, et tout le monde était tenté de réparer l'oubli du destin envers eux. Leur contenance noble, simple et sans la moindre marque de honte, mais aussi sans bravade, toucha beaucoup les femmes. Les quatre gentilshommes et Gothard se présentaient avec le costume qu'ils portaient lors de leur arrestation. Mais Michu, dont les habits faisaient partie des pièces à conviction, avait mis ses meilleurs habits, une redingote bleue, un gilet de velours brun à la Robespierre et une cravate blanche. Le pauvre homme paya le loyer de sa mauvaise mine. Quand il jeta son regard jaune, clair et profond sur l'assemblée et qui laissa échapper un mouvement, on lui répondit par un murmure d'horreur. L'audience voulut voir le doigt de Dieu dans sa comparution sur le banc des accusés où son beau-père avait fait asseoir tant de victimes. Cet homme, vraiment grand, regarda ses maîtres en réprimant un sourire d'ironie. Il eut l'air de dire « Je vous fais tort ». Ces cinq accusés échangèrent des saluts affectueux avec leurs défenseurs. Gothard faisait encore l'idiot. Après les récusations exercées avec sagacité par les défenseurs, éclairées sur ce point par le marquis de Chargebœuf, assis courageusement auprès de Bordin et de M. de Granville, quand le jury fut constitué, l'acte d'accusation lu, les accusés furent séparés pour procéder à leurs interrogatoires. Tous répondirent avec un remarquable ensemble. Après être allés le matin se promener à cheval dans la forêt, ils étaient revenus à 1 heure pour déjeuner à 5 cygnes. Après le repas de 3 heures à 5 heures et demie, ils avaient regagné la forêt. Tel fut le fond commun à chaque accusé, dont les variantes découlèrent de leur position spéciale. Quand le président pria messieurs de Simeuse de donner les raisons qui les avaient fait sortir de si grand matin, l'un et l'autre déclarèrent que, depuis leur retour, ils pensaient à racheter Gondreville et que dans l'intention de traiter avec Malin, arrivé la veille, ils étaient sortis avec leur cousine et Michu afin d'examiner la forêt pour baser des offres. Pendant ce temps-là, messieurs d'Auxerre, leur cousine et Gothard avaient chassé un loup que les paysans avaient aperçu. Si le directeur du jury eut recueilli les traces de leurs chevaux dans la forêt avec autant de soin que celles des chevaux qui avaient traversé le parc de Gondreville, on aurait eu la preuve de leur course en des parties bien éloignées du château. L'interrogatoire de messieurs d'Auxerre confirma celui de messieurs de Simeuse et se trouvait en harmonie avec leur dire dans l'instruction. La nécessité de justifier leur promenade avait suggéré à chaque accusé l'idée de l'attribuer à la chasse. Des paysans avaient signalé, quelques jours auparavant, un loup dans la forêt et chacun d'eux s'en fit un prétexte. Cependant, l'accusateur public releva des contradictions entre les premiers interrogatoires où messieurs d'Auxerre disaient avoir chassé tous ensemble et le système adopté à l'audience qui laissait messieurs d'Auxerre et Laurence chassant, tandis que messieurs de Simeuse auraient évalué la forêt. Monsieur de Granville fit observer que le délit n'ayant été commis que de 2 heures à 5 heures et demie, les accusés devaient être crus quand ils expliquaient la manière dont ils avaient employé la matinée. L'accusateur répondit que les accusés avaient intérêt à cacher les préparatifs pour séquestrer le sénateur. L'habileté de la défense apparut alors à tous les yeux. Les juges, les jurés, l'audience comprirent bientôt que la victoire allait être chaudement disputée. Bordin et M. de Granville semblaient avoir tout prévu. L'innocence doit un compte clair et plausible de ses actions. Le devoir de la défense est donc d'opposer un roman probable au roman improbable de l'accusation. Pour le défenseur qui regarde son client comme innocent, l'accusation devient une fable. L'interrogatoire public des 4 gentilshommes expliquait suffisamment les choses en leur faveur. Jusque-là, tout allait bien. Mais l'interrogatoire de Michu fut plus grave et engagea le combat. Chacun comprit alors pourquoi M. de Granville avait préféré la défense du serviteur à celle des maîtres. Michu avoua ses menaces à Marion, mais il démentit la violence qu'on leur prêtait. Quant au guet-apens sur Malin, il dit qu'il se promenait tout uniment dans le parc. Le sénateur et M. Grévin pouvaient avoir eu peur en voyant la bouche du canon de son fusil et lui supposer une position hostile quand elle était inoffensive. Il fit observer que le soir, un homme qui n'a pas l'habitude de la chasse peut croire le fusil dirigé sur lui tandis qu'il se trouve sur l'épaule au repos. Pour justifier l'état de ses vêtements lors de son arrestation, il dit s'être laissé tomber dans la brèche en retournant chez lui. N'y voyant plus clair pour la gravir, je me suis en quelque sorte, dit-il, colleté avec les pierres qui éboulaient sous moi quand je m'en aidais pour monter le chemin creux. Quant au plâtre que Gothard lui apportait, il répondit, comme dans tous ses interrogatoires, qu'il avait servi à sceller un des poteaux de la barrière du chemin creux. L'accusateur public et le président lui demandèrent d'expliquer comment il était à la fois et dans la brèche au château et en haut du chemin creux à sceller un poteau à la barrière, surtout quand le juge de paix, les gendarmes et le garde champêtre déclaraient l'avoir entendu venir d'en bas. Michu dit que M. d'Auxerre lui avait fait des reproches de ne pas avoir exécuté cette petite réparation à laquelle il tenait à cause des difficultés que ce chemin pouvait susciter avec la commune. Il était donc allé lui annoncer le rétablissement de la barrière. M. d'Auxerre avait effectivement fait poser une barrière en haut du chemin creux pour empêcher que la commune ne s'en emparât. En voyant quelle importance prenait l'état de ses vêtements et le plâtre dont l'emploi n'était pas niable, Michu avait inventé ce subterfuge. Si, en justice, la vérité ressemble souvent à une fable, la fable aussi ressemble beaucoup à la vérité. Le défenseur et l'accusateur attachèrent l'un et l'autre un grand prix à cette circonstance qui devint capitale et par les efforts du défenseur et par les soupçons de l'accusateur. À l'audience, Gothard, sans doute éclairé par M. de Granville, avoua que Michu l'avait prié de lui apporter des sacs de plâtre, car jusqu'alors il s'était toujours mis à pleurer quand on le questionnait. « Pourquoi ni vous ni Gothard n'avez-vous pas aussitôt mené le juge de paix et le garde champêtre à cette barrière ?» demanda l'accusateur public. « Je n'ai jamais cru qu'il pouvait s'agir contre nous d'une accusation capitale, » dit Michu. On fit sortir tous les accusés, à l'exception de Gothard. Quand Gothard fut seul, le président l'adjura de dire la vérité dans son intérêt en lui faisant observer que sa prétendue idiotie avait cessé. Aucun des jurés ne le croyait imbécile. En se taisant devant la cour, il pouvait encourir des peines graves, tandis qu'en disant la vérité, vraisemblablement, il serait hors de cause. Gothard pleura, chancela, puis il finit par dire que Michu l'avait prié de lui porter plusieurs sacs de plâtre. Mais chaque fois, il l'avait rencontré devant la ferme. On lui demanda combien il avait apporté de sacs. « 3 », répondit-il. Un débat s'établit entre Gothard et Michu pour savoir si c'était 3 en comptant celui qu'il lui apportait au moment de l'arrestation, ce qui réduisait les sacs à 2, ou 3 outre le dernier. Ce débat se termina en faveur de Michu. Pour les jurés, il n'y eut que 2 sacs employés, mais il paraissait avoir déjà une conviction sur ce point. Bordin et M. de Granville jugèrent nécessaire de les rassasier de plâtre et de les si bien fatiguer qu'ils n'y comprissent plus rien. M. de Granville présenta des conclusions tendant à ce que des experts fussent nommés pour examiner l'état de la barrière. Le directeur du jury, dit le défenseur, s'est contenté d'aller visiter les lieux, moins pour y faire une expertise sévère que pour y voir un subterfuge de Michu. Mais il a failli, selon nous, à ses devoirs, et sa faute doit nous profiter. La cour commit, en effet, des experts pour savoir si l'un des poteaux de la barrière avait été récemment scellé. De son côté, l'accusateur public voulut avoir gain de cause sur cette circonstance avant l'expertise. « Vous auriez, dit-il à Michu, choisi l'heure à laquelle il ne fait plus clair, de 5h30 à 6h30, pour sceller la barrière à vous seul ?» « Monsieur d'Auxerre m'avait grondé. »« Mais, dit l'accusateur public, si vous avez employé le plâtre à la barrière, vous vous êtes servi d'une auge et d'une truelle. Or, si vous êtes venu dire si promptement à Monsieur d'Auxerre que vous aviez exécuté ses ordres, il vous est impossible d'expliquer comment Gothard vous apportait encore du plâtre. Vous avez dû passer devant votre ferme, et alors vous avez dû déposer vos outils et prévenir Gothard. » Ces arguments foudroyants produisirent un silence horrible dans l'auditoire. « Allons, avouez-le, reprit l'accusateur, ce n'est pas un poteau que vous avez enterré. »« Croyez-vous donc que ce soit le sénateur ?» dit Michu d'un air profondément ironique. M. de Granville demanda formellement à l'accusateur public de s'expliquer sur ce chef. Michu était accusé d'enlèvement, de séquestration et non pas de meurtre. Rien de plus grave que cette interpellation. Le code de Brumaire en 4 défendait à l'accusateur public d'introduire aucun chef nouveau dans les débats. Il devait, à peine de nullité, s'en tenir au terme de l'acte d'accusation. L'accusateur public répondit que Michu, principal auteur de l'attentat, et qui, dans l'intérêt de ses maîtres, avait assumé toute la responsabilité sur sa tête, pouvait avoir eu besoin de condamner l'entrée du lieu encore inconnu où gémissait le sénateur. Pressé de questions, harcelé devant Gothard, mis en contradiction avec lui-même, Michu frappa sur l'appui de la tribune aux accusés un grand coup de poing et dit « Je ne suis pour rien dans l'enlèvement du sénateur. J'aime à croire que ses ennemis l'ont simplement enfermé, mais s'il reparaît, vous verrez que le plâtre n'a pu y servir de rien. » « Bien, dit l'avocat en s'adressant à l'accusateur public, vous avez fait plus pour la défense de mon client que tout ce que je pouvais dire. » La première audience fut levée sur cette audacieuse allégation qui surprit les jurés et donna l'avantage à la défense. Aussi les avocats de la ville et Bordin félicitèrent-ils le jeune défenseur avec enthousiasme. L'accusateur public, inquiet de cette assertion, craignit d'être tombé dans un piège. Et il avait en effet donné dans un panneau très habilement tendu par les défenseurs et pour lequel Gothard venait de jouer admirablement son rôle. Les plaisants de la ville dirent qu'on avait replâtré l'affaire, que l'accusateur public avait gâché sa position et que les cimeuses devenaient blancs comme plâtre. En France, tout est du domaine de la plaisanterie, elle y est la reine. On plaisante sur l'échafaud, à la Bérésina, aux barricades, et quelques Français plaisantera sans doute aux grandes assises du jugement dernier. Le lendemain, on entendit les témoins à charge, Madame Marion, Madame Grévin, Grévin, le valet de chambre du sénateur, Violette, dont les dépositions peuvent être facilement comprises d'après les événements. Tous reconnurent les 5 accusés avec plus ou moins d'hésitation relativement aux 4 gentilshommes, mais avec certitude quant à Michu. Beauvisage répéta le propos échappé à Robert d'Auxerre. Le paysan venu pour acheter le veau redit la phrase de Mademoiselle de Cinq-Cygnes. Les experts entendus confirmèrent leur rapport sur la confrontation de l'empreinte des fers avec ceux des chevaux des 4 gentilshommes qui, selon l'accusation, étaient absolument pareils. Cette circonstance fut naturellement l'objet d'un débat violent entre M. de Granville et l'accusateur public. Le défenseur prit à partie le maréchal Ferrand de Cinq-Cygnes et réussit à établir au débat que des fers semblables avaient été vendus quelques jours auparavant à des individus étrangers au pays. Le maréchal déclara d'ailleurs qu'il ne ferait pas seulement de cette manière les chevaux du château de Cinq-Cygnes, mais beaucoup d'autres dans le canton. Enfin, le cheval dont se servait habituellement Michu, par extraordinaire, avait été ferré à 3, et l'empreinte de ce fer ne se trouvait point parmi celles constatées dans le parc. Le sosie de Michu ignorait cette circonstance, dit M. de Granville en regardant les jurés, et l'accusation n'a pas établi que nous nous soyons servis d'un des chevaux du château. Il foudroya d'ailleurs la déposition de Violette en ce qui concernait la vraisemblance des chevaux, vus de loin et par derrière. Malgré les incroyables efforts du défenseur, la masse des témoignages positifs accabla Michu. L'accusateur, l'auditoire, la cour et les jurés sentaient tous, comme l'avait pressenti la défense, que la culpabilité du serviteur entraînait celle des maîtres. Bordin avait bien deviné le nœud du procès en donnant M. de Granville pour défenseur à Michu, mais la défense avouait ainsi ses secrets. Aussi, tout ce qui concernait l'ancien régisseur de Gondreville était-il d'un intérêt palpitant. La tenue de Michu fut d'ailleurs superbe. Il déploya dans ses débats toute la sagacité dont l'avait douée la nature et, à force de le voir, le public reconnut sa supériorité, mais, chose étonnante, cet homme en parut plus certainement l'auteur de l'attentat. Les témoins à décharge, moins sérieux que les témoins à charge aux yeux des jurés et de la loi, parurent faire leur devoir et furent écoutés en manière d'acquis de conscience. D'abord, ni Marthe ni M. et Mme d'Auxerre ne prêtèrent serment. Puis Catherine et les Durieux, en leur qualité de domestiques, se trouvèrent dans le même cas. M. d'Auxerre dit, effectivement, avoir donné l'ordre à Michu de replacer le poteau renversé. La déclaration des experts, qui lurent en ce moment leur rapport, confirma la déposition du vieux gentilhomme. Mais ils donnèrent aussi gain de cause au directeur du jury en déclarant qu'il leur était impossible de déterminer l'époque à laquelle ce travail avait été fait. Il pouvait, depuis, s'être écoulé plusieurs semaines, tout aussi bien que 20 jours. L'apparition de Mademoiselle de Cinq-Cygnes excita la plus vive curiosité, mais, en revoyant ses cousins sur le banc des accusés après 23 jours de séparation, elle éprouva des émotions si violentes qu'elle eut l'air coupable. Elle sentit un effroyable désir d'être à côté des jumeaux et fut obligée, dit-elle plus tard, d'user de toute sa force pour réprimer la fureur qui la portait à tuer l'accusateur public afin d'être, aux yeux du monde, criminelle avec eux. Elle raconta naïvement qu'en revenant à Cinq Cygnes et voyant de la fumée dans le parc, elle avait cru à un incendie. Pendant longtemps, elle avait pensé que cette fumée provenait de mauvaises herbes. « Cependant, dit-elle, je me suis souvenue plus tard d'une particularité que je livre à l'attention de la justice. J'ai trouvé dans les brandebourgs de mon Amazone et dans les plis de ma collerette des débris semblables à ceux de papier brûlé emportés par le vent. » « La fumée était-elle considérable ? » demanda Bordin. « Oui, dit Mademoiselle de Cinq-Cygnes, je croyais à un incendie. » « Ceci peut changer la face du procès, » dit Bordin. « Je requiers la cour d'ordonner une enquête immédiate des lieux où l'incendie a eu lieu. » Le président ordonna l'enquête. Grévin, rappelé sur la demande des défenseurs et interrogé sur cette circonstance, déclara ne rien savoir à ce sujet. Mais entre Bordin et Grévin, il y eut des regards échangés qui les éclairèrent mutuellement. « Le procès est là, » se dit le vieux procureur. « Ils y sont, » pensa le notaire. Mais, de part et d'autre, les deux fins matois pensèrent que l'enquête était inutile. Bordin se dit que Grévin serait discret comme un mur, et Grévin s'applaudit d'avoir fait disparaître les traces de l'incendie. Pour vider ce point, accessoire dans les débats et qui paraît puéril, mais capital dans la justification que l'histoire doit à ces jeunes gens, les experts et Pigou, commis pour la visite du parc, déclarèrent n'avoir remarqué aucune place où il existât des marques d'incendie. Bordin fit assigner deux ouvriers qui déposèrent avoir labouré, par les ordres du garde, une portion du pré dont l'herbe était brûlée, mais ils dirent n'avoir point observé de quelle substance provenaient les cendres. Le garde, rappelé sur l'invitation des défenseurs, dit avoir reçu du sénateur, au moment où il avait passé par le château pour aller voir la mascarade d'Arcy, l'ordre de labourer cette partie du pré que le sénateur avait remarqué le matin en se promenant. Y avait-on brûlé des herbes ou des papiers ? Je n'ai rien vu qui pût faire croire qu'on ait brûlé des papiers, répondit le garde. Enfin, dirent les défenseurs, si l'on y a brûlé des herbes, quelqu'un a dû les y apporter et y mettre le feu. La déposition du curé de Cinq-Cygnes et celle de Mademoiselle Gouget firent une impression favorable. En sortant de Vêpres et se promenant vers la forêt, ils avaient vu les gentilshommes et Michu à cheval sortant du château et se dirigeant sur la forêt. La position, la moralité de l'abbé Gouget donnait du poids à ses paroles. La plaidoirie de l'accusateur public, qui se croyait certain d'obtenir une condamnation, fut ce que sont ces sortes de réquisitoires. Les accusés étaient d'incorrigibles ennemis de la France, des institutions et des lois. Ils avaient soif de désordre. Quoiqu'ils eussent été mêlés aux attentats contre la vie de l'empereur et qu'ils fissent partie de l'armée de Condé, ce magnanime souverain les avait rayés de la liste des émigrés. Voilà le loyer qu'ils payaient à sa clémence. Enfin, toutes les déclamations oratoires qui se sont répétées au nom des Bourbons contre les Bonapartistes, qui se répètent aujourd'hui contre les Républicains et les Légitimistes au nom de la branche cadette, ces lieux communs qui auraient un sens chez un gouvernement fixe, paraîtront au moins comiques quand l'histoire les trouvera semblables à toutes les époques dans la bouche du ministère public. On peut en dire ce mot, fourni par des troubles plus anciens, l'enseigne est changée, mais le vin est toujours le même. L'accusateur public, qui fut d'ailleurs un des procureurs généraux les plus distingués de l'Empire, attribua le délit à l'intention prise par les émigrés rentrés de protester contre l'occupation de leurs biens. Il fit assez bien frémir l'auditoire sur la position du sénateur. Puis il massa les preuves, les semi-preuves, les probabilités, avec un talent que stimulait la récompense certaine de son zèle, et il s'assit tranquillement en attendant le feu des défenseurs. Monsieur de Granville ne plaida jamais que cette cause criminelle, mais elle lui fit un nom. D'abord, il trouva pour son plaidoyer cet entrain d'éloquence que nous admirons aujourd'hui chez Berryer. Puis, il avait la conviction de l'innocence des accusés, ce qui est un des plus puissants véhicules de la parole. Voici les points principaux de sa défense rapportés en entier par les journaux du temps. D'abord, il rétablit sous son vrai jour l'avis de Michu. Ce fut un beau récit où sonnèrent les plus grands sentiments et qui réveilla bien des sympathies. En se voyant réhabilité par une voix éloquente, il y eut un moment où des pleurs sortirent des yeux jaunes de Michu et coulèrent sur son terrible visage. Il apparut alors ce qu'il était réellement, un homme simple et rusé comme un enfant, mais un homme dont la vie n'avait eu qu'une pensée. Il fut soudain expliqué, surtout par ses pleurs qui produisirent un grand effet sur le jury. L'habile défenseur saisit ce mouvement d'intérêt pour entrer dans la discussion des charges. « Où est le corps du délit? Où est le sénateur ? » demanda-t-il. « Vous nous accusez de l'avoir claquemuré, scellé même avec des pierres et du plâtre. Mais alors, nous savons seuls où il est, et comme vous nous tenez en prison depuis 23 jours, il est mort faute d'aliments. Nous sommes des meurtriers, et vous ne nous avez pas accusés de meurtre. Mais s'il vit, nous avons des complices. Si nous avions des complices, et si le sénateur est vivant, ne le ferions-nous donc point paraître ? Les intentions que vous nous supposez, une fois manquées, aggraverions-nous inutilement notre position ? Nous pourrions nous faire pardonner, par notre repentir, une vengeance manquée, et nous persisterions à détenir un homme de qui nous ne pouvons rien obtenir ? N'est-ce pas absurde ? « Remportez votre plâtre, son effet est manqué, » dit-il à l'accusateur public, « car nous sommes ou d'imbéciles criminels, ce que vous ne croyez pas, ou des innocents victimes de circonstances inexplicables pour nous comme pour vous. Vous devez bien plutôt chercher la masse de papier qui s'est brûlée chez le sénateur et qui révèle des intérêts plus violents que les nôtres et qui vous rendrait compte de son enlèvement. » Il entra dans ces hypothèses avec une habileté merveilleuse. Il insista sur la moralité des témoins à des charges dont la foi religieuse était vive et qui croyait à un avenir, à des peines éternelles. Il fut sublime en cet endroit et sut émouvoir profondément. « Et quoi ? » dit-il. « Ces criminels dînent tranquillement en apprenant par leur cousine l'enlèvement du sénateur. Quand l'officier de gendarmerie leur suggère les moyens de tout finir, ils se refusent à rendre le sénateur, ils ne savent ce qu'on leur veut. » Il fit alors pressentir une affaire mystérieuse dont la clé se trouvait dans les mains du temps, qui dévoilerait cette injuste accusation. Une fois sur ce terrain, il eut l'audacieuse et ingénieuse adresse de se supposer juré, il raconta sa délibération avec ses collègues, il se représenta comme tellement malheureux si, ayant été cause de condamnation cruelle, l'erreur venait à être reconnue, il peignit si bien ses remords et revint sur les doutes que le plaidoyer lui donnerait avec tant de force qu'il laissa les jurés dans une horrible anxiété. Les jurés n'étaient pas encore blasés sur ces sortes d'allocutions, elles eurent alors le charme des choses neuves et le jury fut ébranlé. Après le chaud plaidoyer de M. de Granville, les jurés eurent à entendre le fin et spécieux procureur qui multiplia les considérations, fit ressortir toutes les parties ténébreuses du procès et le rendit inexplicable. Il s'y prit de manière à frapper l'esprit et la raison comme M. de Granville avait attaqué le cœur et l'imagination. Enfin, il sut entortiller les jurés avec une conviction si sérieuse que l'accusateur public vit son échafaudage en pièces. Ce fut si clair que l'avocat de messieurs d'Auxerre et de Gothard s'en remit à la prudence des jurés en trouvant l'accusation abandonnée à leur égard. L'accusateur demanda de remettre au lendemain pour sa réplique. En vain, Bordin, qui voyait un acquittement dans les yeux des jurés s'ils délibéraient sur le coup de ses plaidoiries, s'opposa-t-il par des motifs de droit et de fait à ce qu'une nuit de plus jetât ses anxiétés au cœur de ses innocents clients, la cour délibéra. L'intérêt de la société me semble égal à celui des accusés, dit le président. La cour manquerait à toutes les notions d'équité si elle refusait une pareille demande à la défense. Elle doit donc l'accorder à l'accusation. « Tout est heurts et malheurs, » dit Bordin en regardant ses clients. « Acquitté ce soir, vous pouvez être condamné demain. »« Dans tous les cas, » dit l'aîné des cimeuses, « nous ne pouvons que vous admirer. » Mademoiselle de Cinq-Signes avait des larmes aux yeux. Après les doutes exprimés par les défenseurs, elle ne croyait pas à un pareil succès. On la félicitait et chacun vint lui promettre l'acquittement de ses cousins. Mais cette affaire allait voir le coup de théâtre le plus éclatant, le plus sinistre et le plus imprévu qui jamais ait changé la face d'un procès criminel.